Xavier Delaporte, vous vouliez vous lancer dans une analyse spinoziste d'Internet, c'est ça? Et alors,
oui.
Vous en êtes où dans votre
analyse? Ne riez pas, Frédéric Lordon, parce que c'était un hommage. Donc ma première intention était en effet de voir quel bénéfice intellectuel nous aurions à regarder Internet avec les lunettes de Spinoza. Attention, c'est une blague cachée.
Oui, comme un peu cagneuse, mais...
Ah ouais, bah, je suis désolé. Comme ma lecture de Spinoza date un peu...
La déplier, comment... comme dirait Frédéric
Lordon. Ah oui,
Lordon.
Allez-y Frédéric Lordon.
Ah mais non, je vous laisse faire, hein. Ah bon. J'arrive derrière.
Non, rapport si au...
Il polissait des lentilles,
Spinoza. C'était son voilà, métier. Bon, voilà. Bon, c'est une blague moyenne. Bon, comme ma lecture de Spinoza date un peu, et demeure assez lacunaire, il faut reconnaître, j'ai appelé un ami très très spinoziste, et je lui ai lâché juste deux mots. Spinoza Internet. Bon, d'abord, il a énormément ri, puis il a réfléchi et il m'a dit, au fond, on pourrait se demander si Internet n'est pas proche de la manière dont Spinoza définit l'esprit comme un automate spirituel. Pour Spinoza, tu vois, une pensée s'engendre elle-même, sans objet. Tout s'enchaîne nécessairement comme dans un automate. Tout ça produit nécessairement des idées inadéquates. Mais chez Spinoza, il y a toujours la possibilité d'une idée adéquate, d'une idée vraie à laquelle on peut remonter. L'enjeu, c'est de remonter à l'idée vraie mutilée au milieu des idées inadéquates. Ça pourrait être ça une lecture spinoziste d'Internet. Tu dois poser la question, où sont les idées vraies, adéquates dans Internet? J'en étais là donc, à chercher des idées adéquates dans Internet, quand les hasards de la vie m'ont porté dans une direction tout à fait inattendue. En effet, un autre ami, moins spinoziste, se met comme ça, spontanément, à me raconter les derniers jeux sexuels qu'il a découverts dans Internet. Et au milieu de quelques cochonneries qu'il me décrit, que je vous détaillerai un jour, mais peut-être un peu plus tard, il me dit que sur le site où il se rend pour s'y livrer, il y a un espace réservé aux fétichistes de, je cite, la domination financière.
Non, mais c'est pas vrai.
La domination financière, mais qu'est-ce que c'est? Lui demandai-je, soudain plus du tout spinoziste. J'en sais rien, me répond-il, la chatroom est toujours vide.
L'espace de discussion.
L'espace de discussion. Vous avez un art à traduire les termes internet qui est assez fort. De retour chez moi donc, ayant le choix entre lire le traité théologico-politique et comprendre ce que c'est que la domination financière, j'ai pas hésité très longtemps et voici ce que j'ai découvert. La domination financière est un fétichisme qui se joue, comme son nom l'indique, autour de l'argent. Le principe est simple, le soumis, qu'on appelle le porc qui paye, en langage fétichiste, verse de l'argent à la dominatrice, au dominateur, hein, puisque la pratique traverse les sexualités. Alors, ça peut être un peu d'argent, quelques dizaines d'euros par semaine, comme chez le psy, d'ailleurs, je sais pas pourquoi cette référence m'est venue à l'esprit, mais ça peut être beaucoup plus. Comment ça marche? Il y a, selon une dominatrice interrogée longuement par le magazine Vice, deux mécanismes principaux. Le plus simple, c'est celui où la dominatrice lance des défis aux soumis, qui, s'il ne le relève pas, doit payer. Mais un autre mécanisme semble beaucoup plus intéressant. Le soumis dit absolument tout de ses revenus et dépenses à la dominatrice, qui lui établit un budget qu'il doit respecter à la lettre, et elle joue ensuite avec ce budget, obligeant le soumis aux restrictions les plus sévères. Et ça peut manifestement aller très loin. Certains ne gardent qu'un peu d'argent pour leurs besoins les plus élémentaires et versent le reste, tout le reste, à la dominatrice. Un PDG, par exemple, raconte à Vice qu'il lui arrive parfois de se priver de manger pour donner plus d'argent à sa dominatrice. Tout ça se fait sur des sites spécialisés, le plus souvent par webcam, où le soumis vient donc prendre régulièrement ses ordres. Et là, alors que je rêvais à ce fétichisme ignoré, Spinoza est revenu en force. Car la première conclusion qu'on pourrait tirer de tout ça était magnifiquement synthétisée dès le début des années 90 par Marx et Robert Lopez. Il s'appelle Marx, hein, je suis désolé.
Internet is for poor. Jackie! Internet is for poor.
What are you doing?
Why you think the net was born? Porn, porn, porn.
Voilà, Internet est fait pour le porno, c'est la conclusion morale visant à faire de l'Internet donc le compagnon de toutes nos déviances. Mais ça n'est pas tout à fait vrai, car l'extraordinaire d'Internet, c'est pas de produire des passions, la domination financière a sans doute préexisté Internet, mais de tout documenter. De documenter toutes nos passions qui sont pour Spinoza autant d'idées inadéquates, les plus folles, les plus noires, les plus belles. Elles sont là, à portée de clic. Toutes celles qu'on aurait pu imaginer, toutes celles auxquelles on n'aurait jamais pensé. La question est, que fait-on de cette bibliothèque des passions humaines, de ce répertoire des idées inadéquates? Comment elle pourrait augmenter notre puissance d'agir? Je ne sais pas. Et je vais donc aller verser tout mon salaire à Domina, il vous dirai demain.